grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Veuillez pardonner ma voix cassée ce matin. Et ce matin, coup de projecteur sur les influenceurs. Selon Le Robert, c'est une personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. On les retrouve dans tous les domaines, l'économie, la culture, les questions sociétales, avec des milliers ou des millions de personnes qui les suivent. Les marques leur font la danse du ventre. Certains influenceurs collaborent plus ou moins activement, plus ou moins subtilement avec elles. Mais comment devient-on influenceur? Quelles sont les qualités requises? Comment s'exerce leur force de frappe? Et puis nous verrons également plus largement comment fonctionne l'influence sociale. Les phénomènes d'influence sont au cœur de toutes les relations entre individus ou au sein d'un groupe. Avec nous ce matin, le sociologue Rémi Houdguiri, le psychologue social Sylvain Delouvet et la journaliste Armelle Auger du trimestriel Oui Demain, notre complice ce matin. Toutes vos questions sur les influenceurs et l'influence sociale au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Dites-nous également si vous êtes plutôt influençable ou pas du tout. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Et il sera évidemment question d'influence dans votre petite philosophie de la vie quotidienne.
Oui, une question, est-ce que c'est vraiment si grave que ça finalement d'être influençable? Est-ce qu'il n'y a pas des bons côtés à être influençable et influencé?
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Pour mieux comprendre ce que sont les influenceurs et l'influence sociale, trois invités. Bonjour Sylvain Delouvet.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en psychologie sociale à l'université Rennes 2 et votre manuel de psychologie sociale est publié chez Dunod. Bonjour Rémi Houdguiri.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et directeur adjoint du cabinet d'études Sociovision qui appartient à l'IFOP. Bonjour Armelle Auger.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au trimestriel Oui Demain et vous signez une enquête consacrée aux influenceurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un influenceur? Armelle Auger.
Alors un influenceur, c'est quelqu'un qui influence, hein. C'est simple, et qui est partout. C'est ce qui nous a donné envie de faire ce sujet, parce qu'on s'est aperçu, on voyait bien que dans les domaines de la beauté, de la mode, etc., il y avait des jolies dames avec des moues glamour, etc., qui posaient avec des produits, etc. Bon, mais après, on a vu que ces influenceurs, c'était un inventaire à la Prévert, et qu'ils venaient de mouvements très différentes et qu'ils intervenaient surtout dans des univers de plus en plus différents en remplaçant des gens qui étaient les journalistes par exemple. Il y avait cet entre-soi où on voit les gens font confiance plus à des gens qui leur ressemblent, hein, on le voit, ils s'écoutent et les infos qu'ils prennent, ce sont les infos qu'ils voient sur leur site, sur leur réseau, et c'est ce qu'ils croient ils croient ceux qui semblent leur ressembler le plus, être plus proche.
Rémi Houdguiri, c'est quoi un influenceur?
Oui, je pense qu'on peut dire qu'en France, aujourd'hui, il y a à peu près 9% de la population qui essaye d'influencer le reste de la population.
Sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Après, il y a énormément d'influenceurs qui influencent très peu de gens, en réalité. Hein. Il y a vraiment un éventail très large. Après, nous, on a calculé qu'il y avait 2% de gens qui vraiment essayent de percer à l'échelle de la France et qui essayent de devenir des influenceurs, c'est-à-dire des influenceurs professionnels. Parce que la grande mutation qu'on est en train de vivre, c'est que effectivement. Des gens qui au départ sont des amateurs et d'ailleurs qui le revendiquent, c'est un peu la garantie de leur sincérité, c'est leur force, deviennent progressivement des professionnels, ce qui correspond à l'évolution de l'économie depuis une quinzaine d'années maintenant, où on voit un peu partout fleurir des concepts où les particuliers jouent un rôle de plus en plus important. Je voudrais juste rappeler aujourd'hui qu'il y a plus de 60% des Français qui achètent à d'autres Français, donc des particuliers à d'autres particuliers. Il y a 10 ans, le chiffre était à 30%. Donc un doublement en 10 ans. Et les influenceurs s'inscrivent dans cette tendance où le particulier devient lui-même acteur.
Sylvain Delouvet.
Oui, les influenceurs, comme ça a été évoqué, sont intrinsèquement liés aux réseaux sociaux numériques. Parce que dans leur fonctionnement, il n'y a rien de nouveau. On se souvient de l'influence des uns et des autres. Moreno, dans les années 60, Jacob Lévy Moreno, un sociologue qui analysait les réseaux, les relations entre les groupes, parlait déjà des leaders populaires, des leaders influents. Donc tout ceci, on le connaissait, mais à une échelle assez proche. Notre groupe, nos groupes d'appartenance, les groupes auxquels, avec lesquels on était rester en contact. Les réseaux sociaux numériques donnent une démultiplication et un impact à ces personnes-là qui est sans précédent.
Qu'est-ce qui rassemble au fond une ado qui dispense des conseils beauté sur sa chaîne YouTube, une star qui met en scène son look sur Instagram, un Norman qui nous fait rire avec ses vidéos ou un Thibaut Inchep qui arbore ses muscles sur son site? Tous influencent nos modes de vie, notre façon de penser, d'agir. Armel Auger.
Oui, ben, la proximité que ceux qui les suivent trouvent en disant il me ressemble mais en mieux. Donc si elle peut faire des choses formidables, parce que quand on voit les instagrammeuses ou certaines chaînes, bon, ils voyagent, ils sont dans des palaces, ils ont ils changent tous les jours de vêtements, ils ont une vie magnifique qui fait que plein de jeunes tentent de devenir influenceurs, ce qui est quand même très compliqué et qui demande une sacrée feuille de route pour que ça fonctionne et pour qu'on gagne sa vie. Mais ce qui est étonnant, c'est que surtout c'est passé de gens qui étaient, comme vous dites, c'était des spécialistes au départ, donc c'est parti des blogs avec des blogueurs, des blogueuses qui connaissaient bien leur sujet, alors il y a maintenant des gens très pointus, encore une fois l'inventaire est à la Prévert, entre des gens qui sont très spécialisés et puis bon, des gens venus de la télé-réalité et qui donnent des conseils. Bon, quand vous voyez par exemple Nabila faire tout un conseil sur les bitcoins. Voilà, bon, on peut faire les points de suspension sur le, mais on la croit parce que il y a un tiers donc des internautes suivent un influenceur et 75% peuvent acheter le produit ou acquiescer à ce que l'influenceuse ou fleur dit. C'est quand même étonnant.
Rémi de Guéry.
Oui, je pense qu'on vit un moment d'effondrement des référents classiques. Les langages traditionnels, des leaders d'opinion traditionnels n'arrivent plus à convaincre. Et la force de tous ces influenceurs, c'est leur langage, en fait. Ils inventent un langage nouveau. Vous avez parlé de proximité. L'humour est omniprésent. Le décalage. Il y a un côté un peu volontairement insolent, irrespectueux. Pour justement se positionner à l'encontre des autorités traditionnelles. Et je pense que l'un des succès des influenceurs vient du fait qu'on est dans une société aujourd'hui, il y a une défiance énorme à l'égard des institutions en général, des leaders d'opinion, pensez à la politique. Et quand on regarde, quand on se promène un peu dans cette galaxie, parce que c'est une véritable galaxie, on est frappé par jetons hétérogènes, avec énormément de diversité, de créativité, parfois de choses un peu futiles, parfois plus sérieuses. Mais ce qui est très frappant, c'est le ton nouveau et très rafraîchissant, je pense, pour un certain nombre de gens.
Thibaut de Saint-Maurice.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'admiration pour la possibilité, finalement, d'avoir son quart d'heure de célébrité? Après tout, si le lycéen de 17 ans arrive à avoir 300 000 followers, ou si la maman ou le papa dans sa maison arrive à montrer qu'il fait du zéro déchet et avoir 400 000 followers aussi, est-ce qu'il n'y a pas cette attirance là pour une forme célébrité diffuse?
Sylvain Delouvet.
Oui, cette forme d'attirance là pour cette célébrité, elle s'explique aussi par la similarité de ces influenceurs. On parlait tout à l'heure de proximité. Moi, en psychologie sociale, j'aurais plutôt tendance à parler de similarité. Ils nous ressemblent, ils sont comme nous. Dans les années 70, on a une série d'études qui ont été menées en psychologie expérimentale qui montrent que quand quelqu'un nous ressemble, on va se laisser beaucoup plus influencer. Cantor, par exemple, en 76, montre que sur un message de prévention autour de la contraception, donc évidemment, il ne s'agit pas de vendre directement un produit, adressé à des jeunes adolescents, si c'est une jeune adolescente qui parle, il y aura une influence beaucoup plus forte que si c'est une femme de 40 ans, quand bien même le contenu du message serait parfaitement identique. Donc comme les personnes qui sont en face de nous ressemblent, on a cette petite idée qu'on pourrait être à leur place, ce fameux quart d'heure de célébrité que nous aussi on pourrait avoir.
Allez, nous attendons toutes vos questions sur les influenceurs et plus largement sur l'influence sociale au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bauve et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
Où des bouts plus la peine. Musique, bateau qui coule sous les lasers. Toute seule, Donna Summer, moi aussi. Toute seule, Marvin Gaye, je suis triste. Toute seule, il m'a laissé toute seule. Toute seule, il m'a laissé toute seule.
Thibaut Saint-Maurice, non, c'est pas Véronique Sanson, hein, c'est Françoise Hardy qui interprétait Musique Soul.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Allez, Rébé.
Alors, quelle déception.
Grand bien vous fasse.
Le maquillage ne tient pas davantage, bref, ce produit n'est pas recommandé pour ma peau, car ne lui apporte rien de plus.
Sur France Inter.
10h20, qu'est-ce qu'un influenceur? Comment fonctionne l'influence sociale? N'hésitez pas à poser toutes vos questions au 01 45 24 7000. Sylvain Delouvet, je rappelle que vous êtes maître de conférences en psychologie sociale. C'est quoi l'influence pour le psychologue social que vous êtes?
Alors, ce qu'il faut faire, c'est surtout la distinction entre l'influence et la manipulation. On a souvent tendance à croire, le grand public a souvent tendance à assimiler les deux et à penser que l'influence est forcément une espèce de manipulation qui vise à faire faire des choses aux gens qui seraient contre leur volonté. En fait, l'influence et l'influence sociale, elle est au cœur de notre vie quotidienne, de notre vie de tous les jours. Nous sommes des êtres sociaux par nature et on ne pourrait pas se comporter sans influencer. Quand vous essayez de demander à votre petite fille d'aller se brosser les dents, quand vous demandez à un collègue d'aller boire un café, c'est à chaque fois une forme d'influence que vous essayez d'exercer. Donc il faut mettre de côté l'aspect négatif de ce type de comportement.
Et quelle est la différence entre l'influence et la manipulation ?
Alors la manipulation, il y a souvent une volonté très directe d'obtenir un d'extorquer un comportement, je vais le dire comme ça. L'influence, c'est simplement une question de relation sociale. Je pense que Thibaut de Saint-Maurice tout à l'heure évoquera cette question dans sa chronique, qui permet de vivre en société.
Armel Augier, je rappelle que vous publiez un papier dans le trimestriel Oui Demain consacré aux influenceurs sur les réseaux sociaux. Alors vous débutez votre papier avec ce constat du New York Times. 80% des gens font ce que disent 10%. C'est une phrase écrite au moment où la chanteuse américaine Taylor Swift poste qu'elle allait voter démocrate aux élections de mi-mandat américaines. Et grâce à ce poste, qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il y a un mouvement qui va vers les bureaux de vote.
Alors 200 000 citoyens qui s'inscrivent sur le site vote.org.
Ça n'a pas fait basculer la donne politique, mais c'est suffisamment interpellant sur le rapport en plus qui est pas direct entre un people et la chose politique. Et c'est justement le problème, enfin la manipulation parfois, et certains s'interrogent aujourd'hui sur la manipulation des plus jeunes, hein, donc puisque les influenceurs, c'est pas que des très jeunes, mais ça commence vers 12, 13 ans, 11 ans, jusqu'à, c'est quand même les 11, jusqu'à 20, 25, ça c'est le gros des troupes, même s'il y a tout à fait des trentenaires et plus sur d'autres supports d'influence, comme notamment Twitter. Chacun a vraiment son réseau, mais il peut y avoir une manipulation. Et d'ailleurs, les influenceurs certains disent qu'ils veulent exprimer un message qui est important pour eux, qui est politique, parce que maintenant l'influence devient aussi surf sur la politique, ce qu'elle faisait peu il y a quelque temps. Ils disent non, on n'est pas des influenceurs, attention, on est là pour avoir un discours citoyen différent. On repart toujours sur ce côté citoyen, on passe pas par les instances traditionnelles de l'information, mais on n'est pas des influenceurs qui essayent de placer des produits et qui vendent un jour la basket machin en montrant le lendemain la basket numéro 2, numéro 3, etc.
Alors Taylor Swift est suivie par 115 millions de personnes sur Instagram, 83 millions sur Twitter. Rémi Houdguiry, l'audience, c'est le trésor de guerre des influenceurs.
Ah oui, sans audience, ils ne sont rien en fait. Hein. Il y a une bataille permanente pour essayer de conquérir de l'audience. Et effectivement, dans les influenceurs, il y a deux types en fait, si on caricature. Il y a ceux qui ont vraiment comme ambition d'en faire une activité à part entière. Et d'ailleurs, quand on étudie leur profil, on s'aperçoit que c'est des gens qui ont envie de créer une entreprise. Enfin, ils se perçoivent eux-mêmes comme une entreprise et ils deviennent des marques. Enjoy Phoenix étant probablement celle qui incarne le mieux, je pense, le fait que les influenceurs sont devenus des marques.
Rappelez qui elle est.
Bah, elle est, c'est une influenceuse de la mode, de la beauté, qui est extrêmement suivie et qui a de l'influence de fait, notamment sur un public très jeune qui est en demande. Enfin, on est face à une nouvelle génération aussi qui se forme beaucoup via les tutos, etc. Donc, c'est vraiment un nouvel apprentissage. Ça, c'est un type d'influenceur commercial. On peut même les appeler des marques. Enjoy Phoenix, c'est une marque en réalité, et ils ont envie, ils aspirent à devenir des marques. Et puis il y a tous les autres influenceurs qui ne veulent pas qu'on les appelle ainsi, qui sont plus importants en nom, mais pas nécessairement en influence justement, et qui essayent de faire bouger les choses. Le phénomène récent, c'est peut-être moins la politique en fait ou la politique citoyenne avec tout ce qui concerne le climat,
parce que
depuis quelques mois, là, on sent une vraie appétence et une vraie influence de certains.
Et puis ils arrivent vraiment à mobiliser les jeunes, ce que ne font pas derrière d'autres types d'associations ou les politiques, etc. Le discours passe, c'est-à-dire avec des retours extrêmement concrets, c'est-à-dire qu'un entre guillemets un influenceur va dire, moi, nous raconter, voilà, j'ai dit, il faut remplacer la bouteille d'eau minérale de plastique par une gourde. Il avait des milliers de gens qui ont été acheter des gourdes. Non, mais il y a une rapidité dans la réaction qui est quand même assez intéressante.
Alors, selon une enquête Ipsos pour l'Argus de la presse, un tiers des internautes suit un influenceur et 75% d'entre eux ont acheté un produit vanté par cet influenceur. Qui sont les influenceurs qui recueillent le plus d'audience, Armel Auger? Je crois que dans le trio de tête, il y a Cyprien,
ah oui, alors
12 millions d'abonnés.
Cyprien, Squeezie,
Norman avec 11 millions.
Natou,
Enjoy Phoenix.
Enjoy Phoenix. Ils ont des millions, c'est des millions et des millions chacun. Donc c'est vrai que si vous additionnez tous ces gens, c'est colossal. Mais alors ce qui est en train de se passer, c'est que justement le propre et la force de ces influenceurs, c'est la proximité. Et quand ils ont trop de millions de followers ou d'abonnés, du coup ils perdent parce que bon, ils vont jouer un peu, ils vont tellement devenir professionnels que du coup ils perdent leur intérêt. Et maintenant les entreprises, elles sont en train d'aller chercher des nano influenceurs, c'est-à-dire de revenir à la source en retrouvant des gens qui n'ont plus des millions, qui ont 100 000, 200 000, 300 000, voire même sur certains secteurs 10 000, 15 000. Mais qui sont pointus et qui retrouvent cette expertise de l'origine. Et donc là, d'ailleurs, Enjoy Phoenix, enfin, il y a un mois, où elle a dit « Ah, j'arrête parce que j'en ai assez de recevoir 30 cadeaux par 30 produits. Je veux faire sérieusement mon travail. » Et donc, je vais même, à un moment, elle a menacé de tout arrêter. Oh, angoisse, angoisse. Non, elle gardera son job, mais elle veut le faire différemment. Voilà. Donc il y a une évolution là des méga influenceurs vers les nanos.
Morgane est esthéticienne. À 25 ans, elle consulte quotidiennement les réseaux sociaux. Elle suit des stars de la télé-réalité. Et parfois, elle se laisse tenter par des produits de fitness ou des cosmétiques dont elle parle.
Quand je vois un produit, je vais plus du coup regarder les commentaires, voir un peu les commentaires que les gens y font sur ce produit, le prix aussi. Et puis après, je vois si je l'achète ou pas.
Voilà. Figure de la télé-réalité, Sarah Lopez vit grâce au salaire des marques. Chaque jour, elle partage 3 contenus sponsorisés, de la publicité qu'elle envoie directement à ses milliers de fans. Et pour elle, ils ne sont pas dupes.
Les fans sont au courant que c'est de la pub parce que forcément, on a un code promo à leur proposer. Donc forcément, qui dit code promo dit que on est sponsorisé par ces marques. On essaye de leur donner des petites réductions.
Le pouvoir prescripteur de ces influenceurs est particulièrement recherché par les communicants. À peu de frais, une marque peut gagner gros.
Rémi de Guéry, on vient d'entendre une influenceuse, Sarah Lopez, sur BFM TV en 2017. Certains influenceurs, influenceuses, jouent un rôle significatif sur certains marchés.
Ah oui, je pense que, alors, bien sûr, la beauté, là, c'est très clair, les cosmétiques, la mode, de plus en plus les loisirs,
le tourisme,
la culture et le tourisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'écueil de l'influenceur, c'est d'avoir trop de succès. Parce que
pourquoi?
Plus il a de succès, plus au fond, il ressemble aux mass-médias. Et puis, il ressemble aux marques, justement, auxquelles on croit moins. Donc, en fait, la spécificité et le trésor d'un influenceur, c'est quand il reste un petit peu, alors, nano peut-être pas, mais en tout cas qui reste quand même dans une niche pour rester crédible. Dès qu'il devient énorme, en fait, on sait très bien qu'il est acheté par les marques, ce qui arrive aujourd'hui. Il y a même des marques qui réfléchissent à lancer des influenceurs sur certains marchés pour redynamiser certaines catégories. Et donc là, on est complètement dans la négation de ce qui a fait au départ le succès de ces personnages.
Sarah Lopez, cette influenceuse, nous dit « mes fans ne sont pas dupes ».
Oui, je pense qu'ils seront de moins en moins. D'ailleurs, il faut bien voir qu'on est sur un phénomène récent, nouveau, et comme un peu comme au début des réseaux sociaux, il y a un enthousiasme assez général. Mais il est évident qu'au fil des années, il va y avoir une maturité qui va se faire, et les gens qui ont été dupes peut-être au départ le seront beaucoup moins. Et par ailleurs, les jeunes qui sont dupes aujourd'hui le seront beaucoup moins après, parce qu'ils vont grandir, ils vont pas rester. Et donc il y a une menace qui pèse là-dessus. Moi, je pense qu'il va se passer exactement ce qui se passe sur l'économie dite collaborative, où les particuliers jouent un rôle très important. On va arriver à de la maturité, les gens sauront comment les utiliser, et on perdra le côté un peu trop commercial du début.
Sylvain Delouvet.
Oui, lorsque notre sentiment de liberté semble menacé, c'est-à-dire que lorsqu'on a vraiment l'impression d'être justement manipulé par les institutions, par les fameux médias. Et donc, quand ces influenceurs ont trop d'audience, on a l'impression qu'ils vont nous dicter ce que nous devons faire et il va se passer ce qu'on appelle en psychologie un phénomène de réactance, c'est-à-dire que nous allons essayer de retrouver ce sentiment de liberté. Et donc, nous allons aller à l'inverse. Et c'est pour ça qu'on va plutôt choisir des petits influenceurs, toutes choses étant égales par ailleurs, bien entendu, que les grands avec des millions et des millions de followers.
Bonjour Léa.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes influenceuse. Vous animez un blog sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Je ne suis pas jolie ». Vous avez également un compte Instagram. Racontez-nous ce qu'est ce compte, cette chaîne « Je ne suis pas jolie ».
Alors, moi j'ai commencé il y a 7 ans, à l'époque où on était très peu à faire ça. Et j'avais envie tout simplement de partager avec des copines, on va dire, virtuelles, les petits conseils, les découvertes du quotidien. Et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu aujourd'hui mon métier. Et j'ai réussi à développer plusieurs entreprises autour de mes réseaux.
Pourquoi ça s'appelle « Je ne suis pas jolie » ?
Alors ça, c'est un petit peu le nom qui fait rire. J'avais choisi ce nom un petit peu au hasard et puis je l'ai gardé parce que finalement, c'est une jolie ambivalence avec le monde un petit peu de la beauté, parce que je parlais beaucoup de beauté à l'époque, un peu moins aujourd'hui. Mais voilà, c'est resté, ça marque une entrée.
Comment mesurez-vous l'influence que vous avez, Léa? Comment vous le savez? C'est à l'audience sur vos comptes Instagram, sur votre chaîne YouTube?
Oui, bon, alors déjà il y a les chiffres, hein, forcément. Après, moi, je suis pas trop, je regarde pas tellement les chiffres. Par contre, ce que je regarde, c'est surtout les retours, les commentaires, les messages. C'est vrai qu'on a beaucoup d'échanges et au-delà de voilà d'une simple publication, il y a des vrais humains, hein, qui nous suivent. Donc, leurs retours sont très importants et c'est là où on mesure l'impact de ce qu'on peut dire.
Quel est le lien qui vous unit à ceux qui vous suivent, à vos fans entre guillemets?
Ah ben moi j'ai un lien très fort avec ma communauté dans le sens où j'ai souvent de plus en plus des jeunes femmes qui ont le même âge que moi, qui sont jeunes mamans également comme moi, donc on partage beaucoup de choses. C'est vrai que ça crée une proximité peut-être différente des stars entre guillemets, parce que moi je me considère absolument pas comme une star. Je partage mon quotidien avec les hauts, les bas, et je pense que c'est ce qui nous lie et c'est ce qui fait la différence, c'est que finalement on est assez transparente dans notre communication.
Est-ce que vous vivez désormais de votre activité, Léa? Vous avez dit que c'était une petite entreprise.
2013, Depuis 2013, j'ai professionnalisé mon contenu et puis j'ai réussi à en vivre. Aujourd'hui, c'est mon métier. J'ai 5 personnes qui travaillent avec moi et j'en suis très heureuse.
Comment travaillez-vous avec les marques, Léa? Et est-ce que c'est clairement dit à ceux qui vous suivent?
Ah oui, c'est clairement dit à ceux qui me suivent. Déjà, c'est obligatoire. Moi, je mentionne systématiquement à l'écrit et à l'oral dans les vidéos et puis sur les posts sur Instagram, il y a une mention qui le permet. Moi, je travaille avec les marques qui me parlent. Je teste en amont les produits pour ensuite en parler s'ils me conviennent. Il faut savoir que je reçois peut-être 80 à 100 demandes par jour. Et sur ces 80 demandes à 100 demandes, j'en accepte peut-être une. Et encore, ensuite, c'est géré par mon agence qui s'occupe de moi au niveau contractuel. Parce qu'il faut savoir que tout ça, il y a des contrats, hein, c'est pas fait n'importe comment. Et ensuite, je partage en fait avec ma ligne éditoriale, c'est-à-dire que contrairement à certaines personnes, je refuse qu'on m'impose un texte, qu'on m'impose une façon de dire les choses. Si la marque veut travailler avec moi, elle accepte de travailler comme moi, je l'entends en fait.
Travailler avec vous, ça veut dire que vous êtes rémunéré par la marque?
Oui, bien sûr, si le produit me plaît, que c'est un produit dont j'ai envie de parler à ma communauté, que je pense intéressant pour eux, bien sûr, il y a une rémunération pour le travail qui est fourni, parce qu'on crée du contenu autour de cette marque-là.
Léa, avec votre succès sur Instagram, sur votre chaîne YouTube, est-ce que vous avez l'impression d'être devenue une marque?
Je, personnellement, en tant que personne, non, je me considère ça comme une marque, ce serait un peu triste. Par contre, oui, j'ai réussi à développer à côté, je me suis auto-édité, donc j'ai développé une maison d'édition quand j'ai sorti mon livre en 2016. Aujourd'hui, j'ai un concept store de création Made in France pour les enfants. Donc bien sûr qu'on développe autour de ce qu'on a créé des marques, mais moi, en tant que personne, non, je ne suis pas une marque.
L'idée, j'imagine, c'est de durer. Est-ce que vous avez une stratégie pour durer dans ce monde des influenceurs qui commence à être très encombré? Est-ce que vous pensez déjà à cette étape-là?
Alors, bon, moi, comme je disais, ça fait 7 ans que je suis là. Donc, il y a 7 ans, je n'imaginais pas du tout en être là aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est encore assez flou. On a du mal un petit peu à se projeter. Bien sûr que on essaie de développer tout ce qu'il y a autour, des choses peut-être plus concrète que les publications sur les réseaux, même si aujourd'hui, on n'en est qu'au début, et il faut surtout faire attention à se renouveler et être toujours en accord avec qui on est. Et moi, en 7 ans, mon contenu a beaucoup évolué et je pense qu'il évoluera encore.
Le regard de Rémi Houdguéry.
Je trouve très intéressant le témoignage de Léa, parce qu'on voit comment ça commence. Ça commence par ce qui est caractéristique de la jeune génération aujourd'hui, on partage. On partage des préférences, des goûts, des choses qui nous plaisent, et on crée une communauté. Au départ, c'est un partage entre guillemets qui n'est pas commercial, c'est un partage simplement gratuit. Et puis, comme ça marche, avec Léa c'est le cas, on devient soi-même développeur. Les marques s'intéressent à nous, on sent qu'il y a ça peut devenir une véritable activité, et on voit bien qu'on devient à un moment donné une véritable entreprise. D'ailleurs, Léa parle presque comme une entrepreneuse, en fait, l'engagement. Je pense que ça, c'est assez typique de ce qui s'est passé ces 10 dernières années, cette émergence d'une nouvelle génération. Et effectivement, le grand enjeu du futur, c'est qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on peut durablement, dans un monde aussi éphémère que le nôtre, s'inscrire?
L'exemple de Léa montre le succès des modèles économiques entre particuliers. On est passé d'une dictature de la consommation à la démocratie de la consommation, dont les youtubeurs seraient les fers de lance. Et je reprends les mots du publicitaire Jacques Séguéla.
Oui, tout à fait. Là, c'est pour moi les influenceurs, c'est juste la partie émergée qu'on voit bien d'une économie énorme en France et partout dans le monde de particuliers qui travaillent pour d'autres particuliers via les plateformes. Alors, Le Bon Coin, c'est évidemment celle qui est la plus connue aujourd'hui pour ce qui est de leur pour des transactions, mais tout ce qui est covoiturage, tout ce qui est plateforme de réservation de logement, enfin les particuliers jouent un rôle énorme, pas toujours bien comptabilisé ou quantifié. Et pour moi, les influenceurs, ça participe de cette nouvelle économie.
Armel Auger.
Oui, c'est un contournement des structures en place. On fait plus confiance. Il l'a fait. Il est comme moi. Donc, si il a aimé, bah, je le crois plus que des journalistes qui sont peut-être pas, voilà, qui font peut-être pas aussi bien leur métier. Et puis, sur ce qui est intéressant, par exemple, pour le aussi, c'est de cerner des univers dont on ne parle peut-être pas assez. Par exemple, celui de Léa. Je suis pas jolie. Nous aussi, on a interviewé une influenceuse qui s'appelle Élie Killeuse. Elle, comment elle a fonctionné? Elle fonctionne très très bien quand elle a posté des photos d'elle, justement, avec des rondeurs bien bien rondes, hein, pas des jolies rondeurs foutées, hein, des vraies rondeurs. Et elle a eu tout de suite un public qui a dit « Mais voilà, nous, on parle jamais de nous, on nous montre pas. » Elle a valorisé ce public-là et du coup, elle a été suivie. Et après, en effet, il y a des produits dérivés, il y a des vêtements, il y a tout un système qui se met en place.
Léa, deux dernières questions. Est-ce que ceux qui vous suivent critiquent parfois le placement de produits? Est-ce que c'est fréquent ou pas?
Alors, personnellement, non. J'ai la chance d'avoir une communauté qui sait que je suis complètement transparente avec elle. Ça fait 7 ans que je fais ça. Donc, voilà, moi, pour moi, un placement de produit, même si c'est aujourd'hui comme ça que je gagne ma vie, c'est pas intéressant pour moi de leur mentir ou de leur proposer des produits qui ne vont pas leur convenir pour un cachet. D'ailleurs, j'ai refusé des sommes astronomiques pour des produits qui me convenaient absolument pas. Et donc, ma communauté sait aujourd'hui que ce que je leur présente, c'est des produits que j'ai testés, que j'ai approuvés. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de retours a posteriori sur des produits que j'aurais recommander, qu'elles aiment et voilà, qu'elles valident. Donc, c'est très important pour moi.
Dernière question, quel conseil à une jeune fille, un jeune garçon de 14, 15, 16 ans qui aimerait devenir influenceur?
Alors moi, mon conseil, déjà, c'est avant d'être influenceur, pour moi, l'important, c'est le contenu. Qu'on a envie de créer comme contenu? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Quel message on a envie de transmettre? À qui est-ce qu'on veut s'adresser? Et ensuite, une fois que le contenu est qualitatif et qu'on arrive à rassembler une communauté, oui, bien sûr, là, on peut se servir de cette communauté pour proposer des partenariats, ce genre de choses. Mais partons de la base. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est qu'est-ce qu'on a envie de proposer aujourd'hui à cette communauté?
Merci beaucoup Léa, votre chaîne YouTube Merci. S'appelle Je ne suis pas jolie. Lui, il est très très joli, hein, Thibaut de Saint-Maurice.
Évidemment,
il est philosophe. Il est philosophe, il est mignon comme tout. Au programme de votre petite philosophie de la vie quotidienne, est-ce que c'est si grave que ça d'être influençable?
Mais oui, on va se poser cette question parce que d'abord je me dis tout simplement que s'il y a des influenceurs, hein, bon, je suis désolé, mais c'est que donc nous sommes influençables. Alors on a souvent du mal à l'admettre, hein, on n'assume pas forcément. L'influence, on l'a dit tout à l'heure, a plutôt mauvaise réputation. On redoute par exemple les mauvaises influences pour ses enfants et on a tendance à penser que quelqu'un d'influençable, c'est quelqu'un de faible, c'est limite une insulte, hein, sans grande personnalité et qui n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il devrait être. Et on soupçonne bien souvent l'influence d'être une forme de manipulation. Mais c'est étrange parce qu'il y a aussi donc de bonnes influences, des influences qui inspirent. C'est assez courant, par exemple, sur cette antenne, quand on interviewe un artiste, de lui demander quelles sont ses influences. Et dans ce cas, par exemple, être influencé par Picasso quand on est peintre, c'est plutôt une bonne chose. Alors, au fond, est-ce que c'est vraiment si grave que ça d'être influençable? Certes, on a tous peur de devenir des moutons ou de se faire manipuler. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut vraiment continuer de vivre avec les autres en rejetant toute influence?
Moi, j'assume que Jérôme Garcin m'a influencé quand j'étais un adolescent. Il y a pire, hein, comme influence.
Exactement.
Alors, ce qui fait peur Thibaut de Saint-Maurice dans le fait d'être influencé, c'est de perdre sa liberté.
Oui, et je crois que c'est pour ça que toute la conception moderne de notre identité, alors depuis Descartes, souvenez-vous, et son fameux « je pense, donc je suis », elle repose sur l'idée toute simple qu'un sujet libre, c'est un sujet qui pense par lui-même, qui fait ses propres choix et qui ne se reçoit que de lui-même. Un siècle plus tard, contre la superstition et le fanatisme religieux, toute la philosophie des Lumières, alors de Rousseau en France jusqu'à Kant en Allemagne, en fait même son idéal. Il faut s'émanciper, se libérer de toutes nos tutelles en osant se servir de notre propre raison pour penser
par nous-mêmes. Alors en ce sens, être influencé, c'est rester un enfant. Et les influences qu'on subit, eh bien, elles nous empêchent de devenir autonomes. La difficulté, c'est qu'il est impossible de se débarrasser de toute influence. Et je vais vous dire, je pense même que c'est tant mieux, parce que nous ne vivons pas tout seuls sur une île. Nous sommes influençables et influencés parce que nous avons besoin des autres pour devenir ce que nous sommes. Il n'y a pas d'enracinement possible, il n'y a pas de vie collective possible, d'appartenance culturelle ou sociale possible sans influence. Et puis, à quoi bon partir à la rencontre de l'autre ou des autres si c'est pour ne rien changer à ce que nous sommes ? Nos amitiés ou nos histoires d'amour, elles nous transforment et on repart petit à petit avec un petit peu des autres en nous. Il y a donc un bon côté à être influençable et à être influencé, c'est que nous apprenons par là que nous nous recevons des autres autant que nous nous constituons par nous-mêmes. Le problème, c'est pas d'être influençable, on peut pas vraiment faire autrement. Le vrai défi, c'est de savoir ce que nous faisons de ces influences qui nous touchent. Le pouvoir de l'influenceur n'est jamais qu'une autorité que nous lui reconnaissons. La liberté, c'est pas d'être détaché de tout, mais c'est de connaître ce qui nous attache et de continuer à nous attacher à ce qui nous rend heureux.
Thibaut Samoris, vous m'avez influencé, je pense, totalement comme vous, là, à la fin de cette chronique.
C'est ça.
Sylvain Delouvet.
Oui, c'est intéressant de constater que souvent, on a tendance à considérer que ce sont les autres qui se laissent influencer. Que nous, par contre, nous ne sommes pas influençables, nous avons un esprit critique, etc., etc. Mais cette influence, comme il a été dit, a parfois des très bons effets, des très bonnes conséquences. On peut se rappeler, alors c'était pas un influenceur au sens où on l'entend aujourd'hui, mais en 1991, quand Magic Johnson annonce sa séropositivité, on passe de environ 7000 appels au standard téléphonique sur le sida, leur équivalent de notre...
SIDA Info Service.
Exactement. On passe d'environ 7000 appels à plus d'1 500 000. Parce que Magic Johnson a annoncé publiquement sa séropositivité.
Merci Thibaut de Saint-Maurice. Votre petite philo est à retrouver en vidéo sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Allez, on continue à s'intéresser aux influenceurs et à l'influence sociale. Posez toutes vos questions au 01 45 24 7000. Thank you. Mormor interprété Pass the Hour. Ça vous plaît ça, Thibaut de Saint-Maurice ?
Oui, mais j'aime beaucoup Françoise Hardy aussi.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h47, qu'est-ce qu'un influenceur? Comment fonctionne l'influence sociale? N'hésitez pas à poser toutes vos questions au 01 45 24 7000. Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Grand reporter de cette émission. Vous avez suivi une influenceuse et un coach en influence.
Oui, il s'appelle Nicolas Kern. C'est un ancien consultant marketing digital. Il s'est lancé dans le consulting d'influenceurs il y a près de 2 ans. Alors sa spécialité, c'est le réseau social Instagram. Il connaît toutes les astuces pour augmenter le nombre de followers, autrement dit les abonnés. Sa méthode comprend des vidéos et des entretiens personnalisés et j'ai pu assister à celui de Céline, cette architecte d'intérieur, s'est lancée sur le réseau social il y a 4 mois, mais sans succès. Elle a donc demandé conseil à Nicolas Kern.
Alors là, je suis sur le compte de Céline. Ça manque d'unité déjà visuelle. Il n'y a pas d'unité là-dessus, c'est complètement décousu. Parce que sur Instagram, qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir le compte et en 3 secondes, ils vont savoir s'ils s'abonnent ou pas. Il faut déclencher un effet « waouh ».
Vous avez combien d'abonnés sur votre compte Instagram, Céline?
Alors, j'en ai 71 depuis aujourd'hui. Je suis hyper fière, j'en ai gagné un. Voilà, j'ai atteint les limites de mes compétences.
Vous, Nicolas Kern, vous pensez pouvoir faire gagner combien d'abonnés, combien de followers à Céline?
Moi, je dis qu'aujourd'hui, si Céline, elle s'engage à faire 2 posts par semaine, à investir entre 30 minutes à 1 heure par jour sur Instagram, elle aura ses premiers 1000 followers entre 30 et 60 jours.
Qu'est-ce qui définit un bon influenceur?
C'est de créer une relation avec ses followers. Donc, les followers, il faut répondre à chacun des commentaires, il faut engager des discussions en message, de publier du contenu qui apporte de la valeur à son audience. Et derrière, il faut qu'il soit transparent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui achètent des faux followers, qui achètent des faux likes, qui font la course au partenariat. Et ça, c'est aujourd'hui encore plus, c'est ce qui marche de moins en moins parce qu'on veut une audience qualitative. Les marques ne veulent pas d'influenceurs qui ont 100 000 abonnés. Ça, c'est fini cette période-là. C'était les débuts d'Instagram, on pensait chiffres. Donc, on regarde aujourd'hui l'engagement de la communauté. Est-ce qu'il y a des likes? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que l'influenceur répond? Ce qui fait que c'est un bon influenceur, qu'il est transparent.
J'arrive à un moment où j'ai besoin de montrer davantage mon travail de façon à développer ma clientèle. Et je me suis dit que j'allais le faire toute seule dans un premier temps. Et les followers, ça, j'ai mes amis hein, qui me like régulièrement. Mais ça ne développe pas ma visibilité.
Il y a beaucoup de gens qui, ok, ils ouvrent leur compte, ils postent des photos, ils disent, ok, le succès va venir à moi. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail entre ça. Il faut partir d'une photo et la travailler, la sublimer, rajouter des légendes, rajouter des hashtags qui sont très importants, rajouter des tags pour pouvoir embellir cette photo, rajouter des filtres pour qu'elle soit visuellement agréable en disant qui vous êtes, parce que là, on voit à aucun moment que vous appelez Céline, on voit à aucun moment votre photo, on sait pas du tout. On n'arrive pas à identifier la personne qui est derrière ce compte et c'est assez frustrant.
Mais effectivement, je pense que c'est important aussi de savoir qui ils ont en face d'eux et comment je procède.
On veut de l'humain sur Instagram, en fait. Il y a des études qui prouvent que si on a un humain sur une photo, on va être beaucoup plus enclin à liker. Vous êtes là pour créer un premier lien émotionnel, pour que le jour où ces gens-là aient un projet en tête, ils se disent « Ah, j'ai vu Céline, c'est intéressant ce qu'elle partage, j'aime beaucoup sa vision, tiens, j'ai un projet, c'est elle que je vais aller voir. »
Ouais, Céline, alors, l'objectif, c'est 1000 followers.
Au moins. Non, mais j'espère, on verra bien. Et je pense que si je fais ça consciencieusement, je pense que j'ai mes chances d'acquérir plein de followers.
Alors Alice, sachez que cette formation coûte 300 €. Et ce coach est assez sûr de lui, de sa méthode, parce que si les objectifs ne sont pas atteints, il s'engage à la rembourser.
Reportage signé Antoine Lee, Rémi Udguiri. Il y a des influenceurs, maintenant il y a des coachs en influence.
Oui, ça montre que c'est devenu un métier en fait, hein, ce qui est un peu une trahison par rapport à l'origine du phénomène. Bah parce que en principe, on l'a dit tout à l'heure, ce qui caractérise beaucoup de ces influenceurs au départ, c'est qu'ils partagent de façon authentique et sincère, justement en s'inscrivant en faux contre tous les discours institutionnels, publicitaires, des marques, pour montrer justement l'envers du décor et de vraies choses. Or là, on sent des stratèges. En fait, on est face à des stratèges qui instrumentalise la fonction de partage et de réseau à des fins commerciales.
Armel Auger.
Tous les influenceurs dont on a parlé tout à l'heure avec des millions d'exemplaires ont tous leur agent. Et il y a des agences, des plateformes donc d'influenceurs, des plateformes qui ont jusqu'à 2005, 3000, 4000 influenceurs dans leur tiroir et qui les dispatchent au fur et à mesure des contrats qu'ils peuvent avoir avec des entreprises.
Rémi Audguéry, quel est l'état d'esprit de ces influenceurs selon l'enquête de votre cabinet, le cabinet Sociovision?
Alors on les a un peu passés au crible. En gros, il y a plusieurs choses qui reviennent toujours. D'une part, c'est des gens très confiants en eux-mêmes. Ça, il faut de la confiance en soi pour pouvoir se mettre en scène devant les autres. Il y a un optimisme. Ils ont aussi tous ce côté un peu décalé, c'est-à-dire qu'ils se lancent dans l'aventure en essayant de montrer un autre regard sur telle activité, tel loisir, telle catégorie de produits. Ils sont très consuméristes. Ça, c'est ce qui les distingue quand on les compare au reste de la population. On sent quand même qu'ils sont la consommation en tant que telle n'est pas un problème pour eux, au contraire, ils aiment ça. Ils sont adeptes des réseaux, c'est des gens qui ont grandi et qui sont réellement comme des poissons dans l'eau dans les réseaux sociaux. Et puis pour eux, l'internet c'est vraiment quelque chose de vital, c'est-à-dire que sans ça, ils nous le disent, hein, et par rapport aux Français, c'est vraiment des gens pour qui c'est vital dans leur vie. S'ils n'ont pas internet, ils sont coupés de tout. Et puis je rajouterai la dernière chose qui est intéressante, ils ont envie de réussir. Ce sont quand même clairement très souvent des gens qui ont un projet en tête et qui ont envie un jour de devenir, alors peut-être pas nécessairement célèbre, mais au moins avoir une audience qui leur permet de vivre de cela.
Par courriel, un anonyme nous dit, dans le domaine de la gastronomie, les influenceurs passent beaucoup de temps à approcher les marques, les restos, les chefs, pour tenter d'obtenir des contrats rémunérés, rédaction de recettes, de critiques culinaires, de portraits, et se faire ainsi l'écho des qualités, entre guillemets, de leurs clients sur les réseaux sociaux, leurs blogs, publicité qui ne dit pas son nom.
Oui, je pense qu'il y a un mot qui revient maintenant depuis quelques temps, c'est le mot instagrammable. Il y a tout un secteur.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire être digne d'être vu sur Instagram. Et en particulier, il y a des restaurants...
C'est pas forcément bon, mais c'est joli.
Voilà, et il y a beaucoup de restaurants aujourd'hui dans certaines villes qui ne vivent que grâce à Instagram. Donc c'est pour ça que ça devient toute une stratégie que d'être beau, entre guillemets, sur Instagram. Et il y a beaucoup de lieux qui aujourd'hui se doivent d'être instagrammables, sinon ils perdent leur trafic, leur clientèle.
Armel Auger, dans le trimestriel Oui Demain, vous évoquez évidemment les influenceurs qui font vendre, qui travaillent avec des marques, mais on aurait tort de les cantonner au commerce, ces influenceurs. Il y en a d'autres qui prônent d'autres valeurs.
Voilà, pas de vendre, mais de faire passer des messages. Dans tous les univers, par exemple en histoire, d'essayer de contrecarrer ce qui peut se dire et qui relève de la fake histoire sur les réseaux sociaux, et donc de démonter des discours politiques, de démonter des itinéraires idéologiques, etc. Donc il y en a d'autres sur l'art, sur la musique, d'avoir ce regard différent, justement décalé, et de s'adresser aux jeunes, notamment par exemple sur la musique classique, sur l'histoire, où ces jeunes-là ne lisent pas forcément directement des livres, ne vont pas directement sur des émissions culturelles, et ils font donc là un travail de passeur, et ils se disent, eux, alors pas du tout, eux, tout leur boulot, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est surtout de pas être influençable et de ne pas être acheté par une quelconque marque ou structure.
Et puis n'oublions pas certains influenceurs politiques, comme les Gilets jaunes, Maxime Nicole ou Éric Drouet, Sylvain Delouvet.
Oui, Ali.
Comment fonctionne leur influence auprès du groupe social formé par les Gilets jaunes? Prenons cet exemple-là pour comprendre comment fonctionne l'influence sociale.
Eh bien, elle fonctionne par la proximité, elle fonctionne par la similarité, encore une fois. Il faut bien écarter l'idée selon laquelle il y aurait certains individus qui seraient par nature influençables ou intrinsèquement influençables et d'autres qui ne le seraient pas. C'est souvent très contextuel ou très situationnel. Et ce que l'on retrouve avec les influenceurs sur les réseaux sociaux numériques, encore une fois, on le retrouve dans la cour de l'école ou dans notre lieu de travail.
Comment fonctionne la communication persuasive? C'est quoi les grands principes?
Alors, l'idée de la communication persuasive, c'est de réussir à influencer souvent par des petits actes engageants, c'est-à-dire par des petits comportements. On va permettre par un clic, si on prend notre cas là, ou en suivant quelqu'un, eh bien d'être engagé dans un processus et donc d'avoir plus de difficultés ensuite à faire machine arrière et donc à se laisser plus facilement influencer.
Bonjour Vanessa, on termine avec vous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes influenceuse, c'est ça?
C'est ce que je lis sur ma fiche. Vous avez 15.
J'aime pas trop ce terme, mais.
Ah, pourquoi vous l'aimez pas ce terme, tiens? Vous avez 15 000 abonnés qui vous suivent.
Peut-être que je l'assume pas. C'est un peu gênant de dire qu'on a une influence sur les gens.
Pourquoi c'est gênant?
Ça n'a pas forcément une bonne image, je pense.
Alors, votre compte Instagram s'appelle Les Gambettes, c'est ça?
Les Gambettes Sauvages.
Les Gambettes Sauvages. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve sur ce compte Instagram?
À la base, c'est une extension de mon blog qui a plus de 15 ans. Ça, c'est autour de la création et du do-it-yourself. Oui. Mon blog, hein, pas l'Instagram, ouais. Évidemment.
Et qu'est-ce qu'on y retrouve?
Voilà, donc à la base, c'est autour de la création du do-it-yourself. Et puis, c'est vrai que ces dernières années, ça a pris un tournant un peu plus écologique. Et depuis quelques mois, un peu plus dans la décroissance, donc ce n'est plus compatible avec tout ça.
Et donc, vous ne travaillez pas avec les marques, vous êtes plutôt indépendante?
Alors, il y a quelques années, du coup, la situation s'est présentée et j'ai fait le choix de ne pas en faire une activité principale. Et quand j'échange avec des marques, c'est très clair, je leur annonce que je vais tester éventuellement le produit ou le service et que je me réserve le droit d'en parler ou pas. Voilà.
Merci beaucoup Vanessa d'avoir témoigné ce matin. Merci à tous, merci Armelle Auger. On retrouve votre papier dans l'excellent trimestriel Oui Demain en vente en kiosque. Merci Rémi Houdguiri d'être venu et Sylvain Delouvet. Demain on s'intéresse à l'obsession du bien-être dans nos sociétés. Nous recevrons notamment le philosophe Benoît Elbrune et l'humoriste Nicole Ferroni. À la technique ce matin, Nicolas Cazot et Tiffany Battistel. À suivre Nagui et sa bande originale.